48FM vous propose en immersion votre magazine de reportage au plus près des acteurs de la Lozère.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, ce dimanche 17 septembre, le Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan propose une visite de l'église de Prévenchère. À 15h ce dimanche, vous pourrez rencontrer Pauline Galindo, maître verrier vitrailliste, créatrice des vitraux de l'église. Depuis 20 ans, Pauline Galindo restaure ou crée des vitraux en Lozère et bien au-delà. En immersion, s'est rendue cette semaine dans son atelier.
En fait, le vitrailliste, il a besoin... en premier lieu d'un coupe-verre, parce qu'en fait, c'est la première chose qu'il va faire, c'est couper du verre quand même. Donc ça se présente un peu comme un stylo. Il peut y avoir un petit butoir ou non. On a une petite tête métallique avec au bout une roulette en carbure de tungstène qui est un acier très dur et qui permet en fait de casser en surface le verre, c'est-à-dire de créer un choc dans le verre, mais qui en fait ne le découpe pas. On parle de coupe-verre, mais c'est presque un mot qui n'est pas adapté, parce qu'il ne coupe pas le verre. En fait, ça ne fait que créer ce choc, et c'est au moment de détacher soit la main, soit la pince, qu'on va pouvoir séparer les deux parties du verre à garder ou à jeter.
C'est toujours cette taille un peu comme un stylo ?
Ça se tient un peu comme un stylo, à peu près, hein. Et on va appuyer sur le verre avec une certaine pression. Et c'est cette pression qui va créer ce choc. Et c'est ensuite en détachant qu'on va obtenir les deux parties du verre.
Vous parliez de souffleur de verre. Vous soufflez du verre, vous faites... Non, c'est juste l'assemblage ?
Non, je ne travaille pas le verre à chaud. Je travaille le verre à froid. Si je dois faire des cuissons, ça va être par le biais d'un four. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas travailler le verre en fusion directement. C'est les souffleurs de verre qui vont faire cette partie du travail.
Du coup, la coloration, c'est qui l'a fait, c'est vous ?
Alors, la coloration, elle se fait de deux façons. Soit c'est du verre soufflé bouche, c'est-à-dire que c'est la verrerie principalement, c'est la verrerie de Saint-Just qui va les fabriquer à la main. Donc, on a des souffleurs de verre qui fabriquent des plaques de verre, qui vont les colorer dans la masse avec des oxydes métalliques. Soit c'est un verre mécanique, qui est fabriqué mécaniquement, mais toujours teinté dans la masse, avec plus ou moins d'opacité. On a des verres américains, on a des milliers de verres différents, en fait. Voilà. Soit dans la coloration, soit dans la structure, soit dans la fabrication. Ils peuvent être polonais, peuvent être allemands, américains, français.
Vous fournissez où ?
Alors, principalement à la verrerie de Saint-Just, à Saint-Étienne, mais par la demande des architectes, en général, puisque si je fais de la restauration majoritairement, il y a des références, c'est référencé, c'est reconnu par les architectes du patrimoine, et donc on a des numéros qui sont bien déterminés et des colorations déterminées pour la restauration. Après, en création, on fait ce qu'on veut. Pour commencer, je vais tremper un tout petit peu la roulette dans du pétrole. Désaromatiser, c'est juste un lubrifiant, c'est pour que la roulette passe mieux sur le verre, en fait. J'accroche pas. Et je vais aller d'un bord à un autre du verre. Voilà. Au son, je sais que j'ai ni appuyé ni trop fort ni pas assez. Et ensuite, je vais détacher. En fait, le verre ici, il n'a qu'une petite rayure un peu translucide. Si je ne fais rien, il ne se passera rien. C'est-à-dire que le verre va rester entier. Il va être juste un peu rayé, c'est tout. Par contre, si j'exerce une pression, c'est-à-dire un porte-à-faux ou une pression, je sépare les deux parties du verre. Donc en fait, c'est la roulette plus la pression que je vais exercer, soit avec les mains, soit avec la pince, qui fera que j'ai deux parties distinctes.
D'accord. Et du coup, pour faire les courbes, les arrondis, c'est pareil, c'est le même principe, c'est la même molette ?
C'est le même principe, c'est la même molette, le même instrument. C'est le geste qui va évoluer en fonction de la courbe ou en fonction du dessin qu'on veut faire.
D'accord. Donc en amont, il y a tout un travail de préparation pour dessiner les découpes, les futures découpes ?
Alors, les découpes, elles sont calibrées, c'est-à-dire que quand on fabrique un vitrail, On peut essayer d'imaginer un peu comme un patchwork. C'est un peu la même technique, on va dire. Enfin, grossièrement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va fonctionner avec des calibres. On a un dessin au préalable. Ce dessin, on va l'agrandir. Ensuite, on va découper des parties carton qui seront les calibres. Et ces calibres deviendront des morceaux de verre qui seront ensuite assemblés avec un réseau de plomb et soudés à l'étain.
D'accord. Donc, vous m'expliquiez tout à l'heure que, justement, le plomb est remis en question par l'Union européenne pour l'instant. Enfin, non, c'est pas plus, mais ça pourrait poser problème dans les années à venir.
Oui, ça peut poser un problème parce qu'il n'y a pas de matériaux qui remplacent le plomb. Et dans les restaurations, on ne peut pas remplacer ceux qui existent, et notamment quand on a un architecte ou quand on a un cahier des charges, il faut que le matériau reste identique. Et aujourd'hui, en recherche, il n'y a rien qui remplace la malléabilité et la durabilité du plomb.
C'est une question de santé c'est qui pose problème ?
Oui, les questions de santé qui sont remises en cause, parce qu'en fait, le plomb, évidemment, c'est toxique, mais quand il est en baguette comme ça, il est stable. En fait, ce qui est toxique, c'est la vapeur dégagée par la soudure ou les peintures à la grisaille qui contiennent du plomb, donc qui sont volatiles. Voilà. C'est uniquement...
Quand vous faites des créations, le plomb, c'est vous qui le travaillez, justement, ou vous le faites faire ?
Le plomb, il arrive en baguette déjà toute prête. Ce sont des longueurs de 2 mètres avec différentes largeurs qu'on va utiliser suivant les besoins. Et ensuite, il va être suffisamment malléable pour épouser les courbes du verre.
Il n'y a jamais plus d'éléments dans un vitrail que du plomb, du verre et du plomb soudé.
Non. Il y a de la peinture après. On peut rajouter de la peinture. Alors, c'est une peinture spéciale qu'on appelle grisaille, qui est constituée de poudre de verre et de fondant et d'oxyde métallique. De fondant, pourquoi ? Parce qu'il faut que la poudre de verre puisse rentrer dans la surface du verre à la cuisson et on n'excède pas 630 degrés. Voilà. Et elle est appliquée au pinceau lié à l'eau, puis cuite en plusieurs étapes. On peut faire jusqu'à 20 cuissons sur une pièce pour obtenir un visage, un drapé, des mains... Parce qu'on ne peut pas travailler directement. En fait, on travaille à l'envers d'une peinture. C'est-à-dire qu'on va faire un jus uniforme, on va dire. C'est-à-dire qu'on va appliquer à l'eau la grisaille sur une teinte uniforme. On va attendre qu'elle sèche. Et au pinceau sec, on va enlever de la matière pour révéler ce qu'on veut garder. C'est-à-dire qu'on travaille à l'inverse d'une peinture classique.
On trouve quoi comme autre instrument pour travailler
Alors, on a la pince à détacher, qui est là, donc qui sert à aider à détacher le verre quand on n'arrive pas à le faire à la main. On a les couteaux qui servent à couper le plomb, qui sont plus ou moins biseautés, suivant ce qu'on veut faire. On a le ciseau 3 lames. Ciseau 3 lames, pourquoi ? Parce qu'il a 2 lames en bas et 1 lame en haut. Ce ciseau, il permet de découper les calibres. Et pourquoi on utilise 3 lames ? Parce qu'en fait, il va séparer les calibres d'une certaine épaisseur, donc d'environ 1,5 mm. Et en fait, le plomb, il a une forme de I. Et la barre verticale du I, on l'appelle l'âme du plomb. Et cette âme fait 1,2 ou 1,7 mm. Et chaque verre venant s'enchâsser dans les parties latérales du plomb, il faut qu'elle soit séparée de cette largeur-là. Donc ce ciseau sert à ça, à avoir des calibres exacts. Sinon, on monterait des verres qui, au bout d'un moment, ne pourraient plus s'accorder les uns contre les autres. On ne serait plus comme il faut. On a un ouvre-plomb qui est un petit instrument qui ressemblerait bêtement à un tournevis tordu qui sert à légèrement écarter les ailettes du plomb. Les ailettes, ce sont les petites parties à côté du I, si je peux être assez claire. et qui permet de faire rentrer des verres plus ou moins, qui sont un peu trop épais, voilà, dans le plomb. Le marteau, bien sûr, et on a des clous. Les clous à vitrail sont des clous spécifiques qui ne servent qu'à ça. En fait, ce sont des clous qui ont une tête plate, qui sont larges en haut et qui s'affinent très très vite. Ils ne sont pas du tout faits pour être plantés jusqu'au bout. Ils sont faits uniquement pour être plantés sur la pointe. Ils sont là pour caler les verres au moment du montage. C'est-à-dire que quand on a les verres vont se monter petit à petit comme un puzzle. Et pour éviter que le travail bouge, on plante les clous contre les verres pour éviter qu'ils se déplacent, pour pouvoir monter ensuite un autre verre, puis un autre, puis un autre. Donc du coup, on plante le clou, il ne va pas plus loin que ça. En fait. On n'est vraiment que sur la pointe. C'est quelques millimètres à peine, c'est pour caler le verre.
Donc ça tient, après on l'enlève.
Ça tient, ça s'enlève, tout, voilà, ça s'enlève très bien et ça permet de les bouger, les replanter tout le temps au fur et à mesure de l'avancement du travail.
Tout tient dans une mallette ?
Tout tient dans une petite boîte. Après, il y a bien sûr des outils beaucoup plus gros qui restent à l'atelier, comme la meuleuse qui permet d'ajuster un verre quand on a besoin, qui a la coupe est un peu juste. La table de montage, bien sûr, les baguettes de montage qui servent à tenir le travail de base, casier à verre, les équerres.
Vous l'avez dit, Pauline, vous avez parlé de restauration, restauration et création. Voilà, c'est les deux domaines dans lesquels vous intervenez.
Oui, plus particulièrement en restauration de patrimoine.
Les deux sont intéressants ou il y en a un qui a votre préférence ?
Alors, c'est tellement différent au niveau de la démarche que ce n'est pas tellement comparable. Dans une restauration, on a un cahier des charges précis. On intervient sur un vitrail déjà existant. On est là pour lui redonner une seconde vie. Donc, on n'intervient que sur la technique. Il n'y a pas de part à la créativité, à l'imagination. On est là pour uniquement dans la technique. Donc, on va analyser le vitrail, on va chercher comment, quel type de plomb a été utilisé, quel type de peinture, comment il a été posé, chercher la bonne teinte pour remplacer les verres cassés. Donc, on n'est vraiment que sur de la technique. C'est très intéressant, mais il y a beaucoup de manipulation, voilà, de nettoyage, de comment on va nettoyer un visage qui est abîmé, qui est sali, on ne sait pas par quoi il est sali, on ne sait pas comment, pour ne pas abîmer la peinture. Il y a plein de démarches techniques qui vont rentrer en compte. En création, c'est différent, on va faire des choix de couleurs, on va faire des choix de texture, de largeur de plomb, on va jouer avec la lumière, il y a un travail de graphisme qui se fait, donc la technique vient en second plan, elle vient supporter un graphisme, un dessin, une idée, mais c'est tout à fait différent.
Le graphisme, on vous le donne ou c'est vous qui le faites ?
Soit c'est imposé, ce qui est assez rare, enfin, ça peut être le cas pour une église où il faut un losange, où il faut quelque chose de géométrique. Soit c'est, il y a une idée, on souhaiterait ça, un peu comme ça, et moi je vais, en fonction de ce qui m'a été dit, faire des dessins et des propositions, et on évoluera jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur un ensemble, sur un dessin, et on réalisera le projet.
Là, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, on va mettre l'église de Prévenchère en avant, avec le pays d'art et d'histoire monde de Lotan-Gévaudan. Là, vous avez créé des vitraux, donc là, c'est vous qui avez tout fait de A à Z ?
Oui. Ce qui est arrivé pour Prévenchère, c'est que le comité de sélection, enfin l'ensemble des membres de la mairie, n'a pas donné de directive. C'était assez déstabilisant parce qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Il a été demandé à plusieurs verriers de faire une proposition pour Prévenchère. Donc il n'y avait rien qui a été demandé. Une géométrie, figuratif, non figuratif, très coloré, pas coloré. Il n'y avait aucun fil conducteur, donc il fallait faire une proposition. Donc en effet, j'ai cherché ce qui pouvait être en harmonie avec cette église du 12e, sans la choquer, sans la dénaturer. Et je suis partie sur le tilleul de Sully, qui est l'arbre remarquable qu'il y a sur la place de l'église. Et j'ai tenté de la travailler en ombre chinoise, avec des couleurs derrière, donc sur le branchage. Et le branchage, s'en mêlant de certaines façons, amène à un graphisme. Voilà, ça peut être... Il y a des choses un peu figuratives, d'autres un peu moins. Voilà.
Du coup, il y a combien de vitraux dans cette église? Vous en avez fait combien?
Il y en a 10 en tout. Voilà, il y a 10 verrières en tout. 10 verrières, voilà.
Combien de temps pour la création des recherches du dessin jusqu'au rendu final? Ça dure combien de temps?
Voilà, l'aventure de Prévenchère, elle a commencé en 2016. Avec la première municipalité avec qui j'avais déjà eu un premier lien, un premier contact. On avait fait quelques dessins. Le projet n'a pas abouti. J'ai été recontactée en 2019. On a finalisé les dessins fin 2020. Et on a commencé le travail. Depuis 2020, ça a évolué encore. Et on a commencé le travail 2022. Et pour 2023.
Alors juste la production, une fois que tout est décidé, que les dessins sont faits, c'est un an en gros.
En gros, j'ai mis 7 mois de pure construction. Voilà. Coupe de verre, agrandissement des dessins, assemblage au plomb, peinture et pose.
Comment on devient maître verrière? Comment vous êtes arrivé à ce métier?
C'est un peu le hasard des choses, en fait. J'ai pas vraiment d'explication rationnelle, je sais pas si on peut dire ça. C'est des concours de circonstances. Ça a été d'abord un livre sur le vitrail, et puis une rencontre avec un verrier, puis avec d'autres verriers, et puis avec un vitrailliste. Je me disais, mais le vitrail, c'est ringard, je vais jamais pouvoir faire un truc pareil, c'est moche. Et en fait, au fur et à mesure des choses, au fur et à mesure des rencontres, ça s'est imposé à moi, en fait, comme une évidence, comme un fil de vie, mais que j'ai pas cherché à... Voilà, je suis rentrée dans la brèche, quoi.
Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes maître verrier?
Ça fait 20 ans.
Et vous êtes arrivée en Lozère quand?
Il y a 10 ans. Comment on arrive en Lozère? Parce que c'était un département coup de cœur. C'est là où on a commencé certains travaux. Puisque quand j'ai ouvert mon atelier, c'était une reprise d'atelier, et la personne qui travaillait dans cet atelier et qui me l'a cédé travaillait déjà en Lozère. Donc elle a fait un premier lien avec les bâtiments de France, et puis petit à petit j'ai fait d'autres chantiers en Lozère, et puis notre projet de maison d'hôte ayant trouvé un point de chute ici à Bagnoles-les-Bains, on est venu s'installer là.
Les études, c'est quoi pour devenir maître verrier vitrailliste pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient essayer?
Alors, il y a un CAP art et technique du verre qu'on peut passer dans certaines écoles. La plus grande école et celle la plus connue est celle de Nancy, le CERFAV, qui est une plateforme européenne verrière dans laquelle on apprend tous les métiers du verre. Il y a certainement d'autres écoles que je ne connais pas. Il y en a peut-être une à Chartres. Il y a l'apprentissage, évidemment, qui est de toute façon le seul biais pour apprendre à travailler le vitrail. Ça ne s'apprend pas que sur 2 ans. Un CAP, c'est 2 ans, mais c'est beaucoup plus long que ça. C'est qu'en fait, on est continuellement en train d'apprendre.
Et vous avez fait quoi, vous?
Oh là, moi, j'ai commencé un peu tard, donc je ne suis pas rentrée dans les clous. J'ai attendu quelques temps avant de me mettre au vitrail. J'ai attendu l'âge de 27 ans. Donc, je suis passée par un congé individuel de formation. Et j'ai passé mon CAP en candidat libre. Ensuite, j'ai travaillé avec un maître verrier pendant 3 ans. Puis avec un autre où j'ai appris la peinture. Et ensuite, j'ai ouvert mon atelier en 2005.
Vous pouvez nous donner des exemples d'églises où on peut retrouver vos vitraux, que ce soit en Lozère ou ailleurs, quelques-unes?
On a commencé par la chapelle d'Apché, il y a eu Langogne, Nasbinal, Riotor de Rondon, Serverette et bien d'autres.
Et au niveau des créations, en Lozère et même ailleurs, vu que vous intervenez sur divers départements, on peut retrouver vos créations, mis à part Prévenchère dont on vient de parler, où?
Alors, il y a récemment Mas d'Orcia, il y a Prévenchère, bien sûr. Et après, ailleurs, il y a les Mattel, le château de Diou, château neuf du pape, et d'autres ailleurs.
Vous avez une boutique en bas, j'ai vu qu'il y avait une robe. Vous travaillez autre chose que des vitraux ?
Oui, il y a une autre technique que j'aime bien travailler qui est le fusing, ou la fusion de verre, hein, et le thermoformage. Donc ça permet d'ajouter des petits détails dans un vitrail, ou alors de travailler de la pièce différente, comme du bijou, du plat, des lampes, des petits objets thermoformés. Donc c'est complètement différent. On est sur une technique de fusion de verre. Donc on assemble des morceaux de verre colorés, spécifiques pour ça, et on les cuit dans un four à 850 degrés, donc ils deviennent une seule pièce. Donc on peut faire plein de petites choses. La plupart du temps, plutôt à plat, parce que c'est pas fait pour faire de la verroterie ou des choses en creux. Hein. On va réserver ça aux souffleurs de verre. Et le défi du bustier, c'est un défi entre ma fille et moi, ma fille qui a 17 ans. Et je lui ai dit, je vais te faire un bustier. Donc j'ai moulé son buste. Et ensuite, j'ai travaillé le verre suivant la technique Tiffany, qui consiste à assembler des morceaux de verre avec un lien de cuivre qu'on soude à l'étain. Donc là, on peut travailler en volume. Et donc j'ai assemblé ces morceaux de verre sur le thème de l'eau et on a fini par en faire une robe. Et elle a défilé d'ailleurs il y a 2 ans avec cette robe. C'était chouette.
C'était En Immersion, votre magazine de reportage au plus près des acteurs de la Lozère.